Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est. À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Une troisième vague qui serait celle de la santé mentale. Ce sont les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran. Et c'est ce que redoutent les spécialistes. Nous avons joint par téléphone Nicolas Franck, médecin psychiatre au centre hospitalier lyonnais, le Vinatier, et auteur de Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'Odyssée du confinement.
Reportage et interview d'Emmanuel Claire de l'association Nétoile qui vient visiter les patients de l'hôpital Fleuria au service de soins palliatifs notamment, un rôle d'autant plus nécessaire pendant cette pandémie où les patients ne voient plus leurs proches.
Et on commence tout de suite avec l'actualité.
Bourque, en bref.
Les opposants au projet de loi de sécurité globale ne lâchent rien.
Ils ont décidé de continuer les rassemblements contre cette loi vue comme liberticide. Les manifestants demandent une levée du confinement et le rétablissement des libertés démocratiques. Les rendez-vous devraient toujours avoir lieu les samedis à 15h devant la préfecture, comme le week-end dernier. Une manifestation est en tout cas programmée pour le 12 décembre.
Quelques semaines de répit pour la maison de l'écologie et de la décroissance.
Ce squat renommé La Chouette, situé avenue du Maréchal Juin à Bourque, va rester jusqu'au 21 janvier au moins, date de la prochaine audience au tribunal administratif. Depuis août dernier, ce lieu hybride abrite quelques migrants, organise des ateliers manuels et des repas avec de la nourriture récupérée notamment. Cette maison abandonnée appartient au bailleur social la Semcoda, qui a assigné les habitants du squat en justice.
Faut-il ou non prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires?
Cette question, vous pouvez y répondre. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, lance une concertation ouverte à tous les Français. Les réacteurs conçus à la base pour 40 ans pourraient être prolongés 10 ans selon l'ASN, à condition que des travaux soient réalisés et que la surveillance soit accrue. La centrale du Bugey possède des réacteurs de ce type. C'est la plus vieille centrale de France depuis la fermeture de celle de Fessenheim. Pour participer à la concertation, c'est sur le site asn.fr et c'est jusqu'au 15 janvier. La commission locale de la centrale du Bugey organise aussi une réunion publique par visioconférence, lundi 7 décembre à 18h30. Il sera question de l'actualité de la centrale. C'est à suivre sur le site du département 1.fr.
Radio B.
Comme au restaurant, chez vous.
C'est la campagne de communication de la ville de Bourg-en-Bresse pour aider les restaurateurs qui font de la vente à emporter. Toute la liste de ces restaurateurs est sur le Facebook de la ville de Bourg.
Pas de Glorieuse de Bresse, mais des marchés.
Faute de concours, les chapons et autres poulardes seront vendus sur des marchés spécialement organisés pour leur vente. Ce sera mardi 15 décembre à Morvel et le 18 décembre à Bourg-en-Bresse.
Et la région veut aussi promouvoir le local.
La semaine dernière, le site J'achète dans ma région a été lancé. Il permet de localiser les commerces proches de chez nous selon ce que l'on souhaite acheter. Une centaine de commerces sont répertoriés sur l'agglomération de Bourque. Tous les commerçants et artisans d'Auvergne-Rhône-Alpes peuvent s'y inscrire. C'est gratuit et ça prend 3 minutes. L'objectif, les aider dans leur communication digitale et leur permettre d'avoir une vitrine sur Internet. Cette plateforme doit rester en place même après le confinement. C'est sur j'achète-dans-ma-région.fr.
Un exploit pour l'équipe de basket de Bourque.
La JL Bourque s'est qualifiée pour le top 16 européen jeudi 3 décembre après une victoire face à l'équipe de Venise. L'équipe bressane participera à la deuxième phase de l'Eurocup. Elle débutera fin décembre et jusqu'au mois de février avec les 16 meilleures équipes de la compétition européenne.
2 minutes, une actu.
Inès, la santé mentale des Français inquiète des spécialistes qui craignent une troisième vague psychiatrique.
Début décembre, plusieurs psychiatres et psychanalystes ont appelé le gouvernement à agir pour préserver la santé mentale des Français. Ils alertent sur le fait que tout le monde peut basculer et pas seulement les personnes fragilisées avant la pandémie. Les consultations en psychiatrie sont complètes dans plusieurs villes, dans un secteur déjà saturé avant la crise. Le collectif appelle donc l'État à donner plus de moyens, plus d'outils pour rapidement prendre en charge tous les Français. Le gouvernement a quand même mis en place une cellule d'aide psychologique gratuite que l'on peut contacter avec le numéro vert, le 0 800 130 000.
Le ministre de la Santé a dévoilé des données inquiétantes sur la santé mentale des Français il y a quelques jours.
Olivier Véran a cité les chiffres de Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique. Les états dépressifs ont doublé chez les Français entre fin septembre et début novembre. Ils touchent toute la population et particulièrement les plus précaires. L'organisme constate aussi le doublement du taux d'anxiété entre 2017 et mars 2020. Les troubles du sommeil ont aussi augmenté. Du côté des psychiatres, on constate l'augmentation des demandes de consultation. Elles ont triplé dans un cabinet marseillais, par exemple. Une autre étude a été faite par la Fondation Jean Jaurès en septembre dernier et sur 2000 personnes âgées de 18 ans et plus. Elle indique que 20% des personnes interrogées auraient envisagé sérieusement de se suicider.
Et comment les jeunes vivent-ils ce confinement ?
Un étudiant sur trois a déjà montré des signaux de détresse psychologique pendant le premier confinement, un taux calculé par l'Observatoire de la vie étudiante qui note que la situation s'aggrave encore. Des pédopsychiatres alertent aussi sur la santé mentale des adolescents. À l'hôpital de Rennes, par exemple, une chercheuse indique que les consultations aux urgences pédiatriques sont deux fois plus nombreuses pour des crises suicidaires. Des augmentations aussi pour les troubles anxieux et anorexiques. Les tentatives de suicide chez les moins de 15 ans ont même doublé par rapport à l'année dernière à l'hôpital Robert Debré à Paris. Toutes ces données montrent bien que cette crise a des conséquences sur le moral des Français de tous âges et de tous milieux sociaux.
L'invité de Radio B.
La santé mentale est la troisième priorité sur le podium. Ça concerne 67 millions de Français. Elle doit devenir une dimension importante de cette crise. Ces paroles sont de Nicolas Franck, médecin psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier lyonnais Le Vinatier. Il a publié fin octobre aux éditions Odile Jacob un livre destiné au grand public. Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'odyssée du confinement. Au printemps dernier, en plein confinement, il a lancé une enquête sur le bien-être mental auprès de 20 000 personnes. Nicolas Franck explique comment détecter un état dépressif et comment agir pour en sortir.
Si soi-même ou si ses proches, on constate une modification du comportement, une modification de la manière d'être, une modification de la manière d'interagir, mettons une irritabilité, une contrariété qui reste, des plaintes qui sont un petit peu récurrentes, des troubles du sommeil dont la personne peut faire état, des troubles de l'alimentation ou des propos pessimistes, eh bien tout ça doit alerter. Alors première chose, l'entraide, le simple fait de pouvoir discuter aide la personne, elle est soulagée. Dans ce cas-là, on s'en arrête là, c'était un sentiment fugace de contrariété, de dépression, d'impossibilité à se projeter qu'on a tous en ce moment, ça c'est normal. Mais si ça résiste effectivement au soutien qu'on peut apporter à la personne, il faut lui conseiller éventuellement d'aller se faire aider, de chercher des ressources en ligne, de consulter, d'appeler une plateforme téléphonique de soutien, ou alors d'aller voir un professionnel pour déposer sa difficulté. Parfois ça peut suffire. Si ça ne suffit pas encore, seulement, on a recours aux médicaments. Le problème, c'est d'aller trop vite vers la consommation d'anxiolytiques qui ne seront pas utiles. Si on a une dépression, on ne doit surtout pas consommer d'anxiolytiques, ou alors très ponctuellement, parce qu'ils sont addictogènes, on peut devenir dépendant, hein, c'est comme une drogue, ça fait partie des substances dont on ne peut pas se sortir facilement, ou des comportements dont on ne peut pas se sortir facilement. Si on a une dépression, on doit prendre des antidépresseurs. Or, ce qu'on a vu exploser cet été, c'était avant tout la consommation d'anxiolytiques. Donc ça veut dire qu'on est allé trop vite, probablement, collectivement, vers des prescriptions.
Quel conseil vous pourriez donner pour garder le moral ?
Je pense qu'il faut être solidaire, donc pouvoir partager à autrui. On en revient à la question d'affronter ensemble l'adversité, de partager, de discuter, d'échanger, de prendre le temps qu'il faut pour aller ensemble en avant. Et puis, c'est aussi retrouver un petit peu de maîtrise en structurant ses journées, en structurant les différentes périodes de confinement, post-confinement, inter-confinement, en se fixant des objectifs quotidiens, ne laissant pas se désorganiser finalement son planning, en se levant à heure fixe, en se fixant des tâches, en ne mélangeant pas les temps de repos, les temps d'activité, etc., etc., les temps de travail, les temps de loisirs, les temps personnels, et puis en essayant de se projeter au-delà, en essayant de préparer le monde et notre quotidien qu'on souhaiterait à l'issue de la crise. Parce que si ça peut servir à quelque chose, c'est bien à ça. Questionner son rapport au monde, son rapport à soi-même, son rapport à la consommation, son rapport au déplacement multiple, son rapport à la pollution, à l'environnement. Enfin, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser avec peut-être un petit peu plus de sérénité, maintenant qu'on a adopté un mode de vie un petit peu plus posé. Qu'est-ce qu'on va garder de tout ça ? Ben, si on s'empare activement de la période, en se projetant, regardant en avant, en essayant d'en tirer des conséquences positives, ben, je pense que les moments actuels seront plus faciles à affronter.
Après le confinement, vous avez observé quel changement de comportement ?
Mais du point de vue de leur santé mentale, bah, il y a eu un regain d'espoir et une disparition finalement chez la plupart d'entre nous des difficultés qui avaient été créées par le premier confinement, mais pas chez tout le monde. Chez certains, eh bien, il y a eu des traces anxieuses qui sont restées, et chez d'autres, des traces dépressives qui sont restées. Moi, en tant que psychiatre, j'ai vu beaucoup de personnes en difficulté qui venaient consulter dès l'interconfinement, donc printemps, fin du printemps, été, des personnes qui venaient voir un psychiatre ou un psychologue pour la première fois de leur vie. C'est-à-dire qu'une marque avait déjà été laissée dans l'esprit des personnes. Et leur santé mentale avait déjà commencé à s'altérer de manière collective. Et puis, les mesures de l'été, le reconfinement, tout ça a donné un deuxième coup de massue avec beaucoup plus finalement de demandes chez une partie de la population.
Et donc, est-ce qu'on peut dresser un profil un peu des personnes les plus fragiles dans une période comme celle que nous connaissons, où ça reste aléatoire ?
Bien sûr, ça reste aléatoire, il y a des facteurs très personnels, mais quand même, l'étude dont les résultats sont explicités en détail dans le livre Covid-19 et détresse psychologique, cette étude-là montre que certaines catégories de population ont été plus affectées en moyenne que les autres. En particulier les personnes sans emploi, donc volontiers avec une précarité financière, les personnes qui avaient déjà des difficultés psychiatriques ou psychologiques, les personnes qui étaient isolées, qui étaient confinées seules, et puis finalement les plus jeunes, les étudiants.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire justement au sujet des plus jeunes ? Comment cette crise influence leur morale ?
Ça, je l'ai constaté à la fois dans l'enquête, le constate également en tant que psychiatre, parce que je vois beaucoup plus de jeunes que d'habitude venir me consulter. Et je le constate en tant qu'enseignant, puisque j'ai posé la question à mes étudiants en troisième année de médecine la semaine dernière, et ils étaient tous dans un état, enfin en moyenne, dans un état plutôt difficile. Ils m'ont remercié d'avoir pu parler de ça. Ils m'ont confié leurs difficultés, leurs tensions. En fait, simplement, ce sont des jeunes qui donc sont à la faculté, se sont éloignés de leurs parents. L'université a fermé, donc ils se sont retrouvés finalement très désemparés par rapport à un enseignement en ligne de qualité très diverses. Ils sont donc à distance de leur famille, plus isolés, sans possibilité de voir leurs camarades à l'université puisqu'elle a fermé, sans possibilité de les voir au bar puisqu'ils ont fermé, sans possibilité de les voir chez eux puisque c'est interdit. Donc certains dans des résidences universitaires dans de toutes petites surfaces, ayant perdu leur petit boulot puisque bah, les restaurants ont fermé ou ils travaillent volontiers ou à d'autres endroits, mais c'est pareil, tout avait fermé pendant le premier confinement et ça n'a pas été tellement mieux pendant le deuxième confinement. Donc ils se retrouvent isolés, sans argent, dans une petite surface, avec un avenir un petit peu compromis, puisque ben, ils se sont plaints que les examens ne s'étaient pas passés de la même façon que d'habitude et qu'ils avaient perdu des chances pendant le confinement de printemps. Et là, ils se retrouvent parfois avec des cours de qualité médiocre ou pas de cours du tout pour certains d'entre eux pendant le deuxième confinement. Donc ils ont l'impression d'être les premières victimes collatérales de ces mesures de confinement, alors qu'ils ne sont pas victimes du virus. Donc ils ont un sentiment d'injustice, d'arbitraire, qui les blesse en plus. Et puis, de toute façon, ils sont dans un contexte où ils sont très perdus, avec des perspectives vraiment altérées.
Autre public dont il n'est pas question de votre livre, puisque ce public ne peut pas s'exprimer directement dans une enquête, les enfants. Quelle influence cette crise sur les enfants ?
Eh bien, en fait, il faudrait peut-être le voir par tranche d'âge. Les plus petits se sont retrouvés dans un monde complètement différent, très contraint, très fermé, avec le sentiment que ça durerait toujours. Certains m'ont rapporté ça, enfin des parents m'ont rapporté ça, des petits-enfants de 5 ans qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir, effectivement, parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Ils ne peuvent pas non plus se projeter dans le passé. Ils sont vraiment beaucoup dans l'instant à cet âge-là. Et pour eux, le monde était devenu le monde qu'il était à ce moment-là, le monde du confinement. Donc c'était très difficile pour des plus grands, certains qui étaient en primaire. Ça a été une altération de leur apprentissage de la lecture, puisque ils se sont retrouvés avec les parents qui ne sont pas instituteurs. Quand on n'est pas enseignant, qu'on a des enfants, qu'on doit leur apprendre des choses aussi fondamentales, c'est très difficile. Donc ça a pu être volontiers une perte de chance. Certains instituteurs se sont beaucoup mobilisés, il y a eu des très belles choses avec des élèves qui ont été accompagnés avec avec l'enseignement via les écrans. Bon, ça c'était très bien. Et puis d'autres instituteurs ont disparu et certains enfants n'ont eu pratiquement aucun cours pendant 2 mois. Et donc ça, c'est potentiellement une perte de chance pour une partie d'entre eux. Certains enfants se sont retrouvés face à des écrans, enfin forcément pour ceux qui avaient un enseignement, mais ceux qui n'avaient pas d'enseignement face à des écrans pour regarder des séries en ligne ou pour faire des jeux vidéo de plateforme, et ont pu s'engager dans une addiction aux écrans. Ça, c'est quelque chose auquel les parents doivent veiller de manière très forte, parce que les enfants ont une affinité pour les écrans, et là, on favorise finalement l'addiction aux écrans avec ce mode de communication qui est devenu la seule manière de faire. Donc ce sont des victimes aussi de l'épidémie dont on a parlé peu. Mais effectivement, vous avez raison de le dire, l'enquête portait sur les adultes. Et ce que nous avons publié comme travaux scientifiques, c'est pour ceux de 16 à 100 ans finalement.
Emmanuel Macron, le président de la République, dans une allocution avait dit « Nous sommes en guerre ». On se souvient aussi des annonces au compte-gouttes et beaucoup d'attentes à voir de nouvelles mesures. Comment la gestion de la crise par le gouvernement a influencé le moral des Français ?
Ça dépend de la période, si vous voulez. Si vous regardez de nouveau, encore une fois, l'enquête du printemps, nous avions posé la question, vous sentiez-vous bien informé et adhérez-vous aux mesures? C'était à peu près ce type de questions que nous avions posées. Les réponses ont été tout à fait univoques. Oui, ils se sentaient bien informés, les Français, et oui, ils adhéraient aux mesures. Ça, c'était parce que l'épidémie arrivait d'un seul coup, nous frappait brutalement, qu'il y avait une peur de reproduire la même chose que ce qui s'était passé en Italie. Donc cette peur, finalement, favorisait l'adhésion de la population aux différentes mesures, et les propos guerriers du président de la République étaient en harmonie avec ce contexte. Donc il y avait une certaine unité de la nation, finalement, et un soutien univoque de tout le monde derrière les soignants, puisque nous étions applaudis tous les soirs à 20h en rentrant chez nous, et nous étions un petit peu les sauveurs de la nation. Donc c'était très plaisant, cette unité nationale. Et ça s'est désagrégé petit à petit au cours de l'été, où les gens ont pensé que nous en étions sortis, puis finalement non. Il y a eu des mesures qui sont revenues très brutalement, couvre-feu puis le confinement, alors qu'il avait été dit de nombreuses fois qu'il n'y aurait pas de nouveau confinement, ou du moins qu'on ferait tout pour l'éviter. Et pourtant, il a été refait, même s'il a été aménagé, donc là les Français ont commencé à ne plus adhérer. Cette unité nationale s'est désagrégée, et les contestations sociales ont commencé à se mettre en place. Moi, je pense qu'il aurait été intéressant de mieux associer la population par une éducation à la santé pendant l'été et de mieux préparer, effectivement, le deuxième confinement.
On va parler des médias. Nicolas Franck, que pouvez-vous dire sur leur rôle pendant cette période ?
Eh bien, c'est très hétérogène aussi. Vous avez des médias d'analyse avec de la distance, une réflexion sur la crise, sur les perspectives. Eh bien, ça, c'est très positif. C'est un soutien pour la population. Et vous avez des médias qui assènent simplement les chiffres bruts, nombre de contaminations, nombre de morts, nombre de personnes en réanimation. Écouter ça à répétition, c'est plutôt dépressogène, c'est plutôt mauvais pour le bien-être mental, mauvais pour le moral. Et d'ailleurs, dans l'étude sur la santé mentale pendant le confinement, nous avions posé la question à la population, qu'est-ce qui vous permet de vous projeter à l'issue de la crise, qu'est-ce qui vous permet de la supporter ? Les gens nous ont répondu, principalement, eh bien, c'est la conviction d'une issue favorable, c'est le fait de parler à d'autres personnes, de partager, c'est des connaissances scientifiques, c'est des tas de choses comme ça, l'impact positif sur le climat, c'était les principaux facteurs qui ressortaient pour au moins 40 à 50% de la population. Par contre, le facteur qui était le plus bas, le plus faible de tous, 3% des déclarants disaient qu'ils allaient s'appuyer sur les médias. Absolument personne, pratiquement personne ne comptait sur les médias. C'était fin mars, hein, quand même, pour avoir une conviction d'une issue favorable à cette crise. Donc ça m'a beaucoup choqué, et moi je l'ai mis en perspective avec la question de ces chiffres assénés tous les jours, à la fois par le directeur général de la Santé et repris en boucle par certains médias répétitifs.
Dans votre livre, donc Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'Odyssée du confinement, vous parlez aussi des réseaux sociaux. En parlant donc du point positif, le fait de garder le lien, mais il n'y a pas que ça, Nicolas Franck.
Mon hypothèse en montant cette étude, c'était les contacts sociaux vont préserver le bien-être mental. Donc nous avons étudié la corrélation entre le score de bien-être mental et le temps passé à échanger avec d'autres. Donc le fait de discuter directement, le fait de téléphoner, le fait de faire des SMS, ça, plus on le fait, plus on passe du temps par jour, meilleur est le bien-être mental. En revanche, aller sur des réseaux sociaux, pas discuter par Messenger, mais être vraiment sur le réseau social pour poster du texte écrit, ça n'était pas corrélé avec une préservation du bien-être mental. C'est peut-être utile pour se faire plaisir, pour son narcissisme, mais ça n'est pas utile pour son bien-être mental. Ce qui est utile, c'est le vrai échange, quand il y a une vraie discussion.
Nicolas Franck, médecin psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier lyonnais, Le Vinatier. Son livre « Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'odyssée du confinement » est sorti fin octobre aux éditions Odile Jacob, un livre destiné au grand public. Et il insiste, certains vont passer en réanimation, certains vont en mourir ou sont déjà morts de ce virus. Mais la santé mentale de 67 millions de Français est impactée. À cette crise sanitaire s'ajoute une crise économique et sociale qui ont et auront aussi des effets à long terme. Nicolas Franck insiste pour que le sujet de la santé mentale soit pris en compte sérieusement et que ça le reste.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Direction les couloirs du service de soins palliatifs de l'hôpital Fleuriat. Inès, vous y avez rencontré un personnage haut en couleur.
Emmanuel Claire, il fait partie de l'association Nétoile, créée en 2002. Elle forme des gens à l'accompagnement des patients et aux techniques de bien-être. Emmanuel redonne le sourire aux patients. Depuis le mois de septembre, il reprend les interventions en soins palliatifs et en cancérologie à Bourg-en-Bresse. Et nous l'avions suivi juste avant le premier confinement au service de soins palliatifs de l'hôpital Fleuriat.
Deux après-midi par semaine, Emmanuel quitte sa vallée du Suran et va à l'hôpital Fleuriat, dans le service oncologie ou dans le service soins palliatifs où il se rend aujourd'hui. Au fond d'un couloir, dans une petite salle, après un bon quart d'heure de préparatifs, Emmanuel disparaît pour laisser place à un être fantastique qui va apporter un peu de magie aux patients et aux soignants.
Là, j'installe mon petit bureau de maquillage et puis tout doucement, je vais mettre une petite musique qui m'aide à rentrer dans le personnage. Et puis je me maquille, je me transforme en ce lutin. En fait, la difficulté la plus grande, c'est d'arriver à être dans l'ici et maintenant en laissant tous les soucis que j'ai dans ma vie derrière moi et en étant vraiment présent à, voilà, sans penser ni à l'avenir ni au passé, juste être là, quoi. Et surtout dans la légèreté, voilà.
Je vous laisse vous préparer.
Merci.
Nétoile, c'est la formation qu'il a suivie à Paris. Elle a été créée par une art-thérapeute. Ils sont une douzaine en France. Une continuité logique pour lui qui a déjà une formation de clown.
J'aime bien la relation humaine en général. Et là, ça donne une dimension très particulière parce qu'en fait, étant un personnage féerique, je suis en même temps bien en chair et en os, mais en même temps, je suis quelqu'un qui n'existe pas. Et du coup, la relation, elle s'effectue beaucoup plus rapidement. On peut aller très loin avec les gens dans ce qu'ils ont envie de dire, de confier. Et puis on peut aussi les décaler vraiment de la souffrance, même à des moments, ou de la maladie, pour les emmener dans les plus beaux moments de leur vie. Ou voilà. En fait, on n'amène pas un spectacle, on construit vraiment avec les gens. C'est vraiment une construction... On amène juste une boîte à outils, quoi. C'est une construction avec les gens, vraiment. C'est très particulier.
Oreilles pointues, bonnet et costume bleu turquoise, une petite touche de paillettes sur le visage, le voilà fin prêt. Et pour ajouter au féerique, il enclenche son enceinte pour diffuser des sons d'oiseaux depuis sa petite malle au trésor qu'il traîne derrière lui.
Dedans, pas mal de choses, de la musique, des poèmes, plein de trucs qui permettent à aider à l'imaginaire. J'ai même un mini projecteur vidéo, puis des pierres, des plumes.
Donc là, vous êtes devenu quoi maintenant, après cette phase de maquillage ?
Alors maintenant, je suis devenu Wounam le lutin. Il y a même des services où les médecins me préfèrent en lutin qu'autrement, parce que... Ils ont plein de trucs à me dire, autrement ils me parlent pas trop, quoi. C'est très drôle. Voilà. Donc là maintenant je suis dans ce personnage en même temps dans la profondeur et la rencontre et en même temps dans une grande légèreté où tout est important mais rien n'est grave. Le costume, le maquillage aide au décalage. Je pense que je ne serais pas dans la même attitude si j'étais en moi, Manu, dans la relation d'homme à homme. En fait, la surprise ouvre une faille spatio-temporelle. Voilà. C'est un peu ça, c'est rigolo.
Le lutin quitte enfin sa salle et part faire le tour des chambres comme bon lui semble. Les patients sont tous différents, ils peuvent être en convalescence comme en fin de vie. Il faut s'adapter et surtout laisser la magie opérer. Dans cette chambre, le patient est trop fatigué pour s'exprimer.
Je sais que quelque part dans tes voyages lointains, dans tes rêves, je suis là présent avec toi. Il est en fin de vie et je lui ai joué de la sansula. Alors, la sansula, c'est un petit instrument qui au départ part d'un instrument africain et un instrument qui est très doux et qui, quand on le pose sur le corps, résonne à l'intérieur. Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules. Et ça fait beaucoup de bien aux gens, ça les détend.
Un peu plus loin, il rencontre un patient et sa compagne avec qui il a déjà échangé il y a plusieurs semaines. Le lutin aide aussi les familles. Isabelle en est ravie.
Il m'a fait du tam-tam dans mon dos, j'ai ressenti des choses. Il m'a apporté beaucoup en peu de temps, ce monsieur. Je trouve qu'on a autant besoin, nous les proches, de rencontrer des gens comme ça, parce que ça nous fait un peu voyager, on oublie un peu pourquoi on est là, le temps d'une discussion. Et c'est aussi un bon moment de partage. Puis de par son costume, son maquillage, voilà, c'est, voilà, je sais pas comment dire, c'est du rêve.
Le compagnon d'Isabelle, Jean-François, est à nouveau hospitalisé pour un cancer depuis peu. Lui aussi apprécie la présence de ce passeur de rêve.
Ah bon, je pense que c'est très bien. C'est sûr qu'il nous apporte de la douceur, de la chaleur, ça c'est sûr. Mais il a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose de plus. Mais je sais pas comment y interpréter.
Il n'y a pas de mots en humain.
Et voilà.
C'est ça.
Oui, il n'y a pas de mots en humain, c'est dans un autre monde, on va dire.
Quand la maladie est là, en fait, c'est important de pouvoir lâcher les prises et de dire tout ce qui est compliqué.
Voilà.
Tu sais, on avait même parlé que la maladie, ça embarque dans des pensées négatives,
bien
ça fait penser à la mort. Ça.
Bien sûr.
Tu te rappelles de tout ça, on avait parlé. Mais en fait, c'est des trucs qui tournent à l'intérieur. Donc en fait, c'est un peu important de pouvoir l'exprimer, le sortir, le partager.
Bien sûr.
Et bon, les soignants, ils sont en capacité de ça, mais souvent ils courent un peu.
Oui, même beaucoup.
Tiens, mets ta main comme ça. Tourne là, dans le centre. Donne ta main. Fermez vos yeux.
Voilà.
Vous pouvez les rouvrir.
Oh, c'est joli.
Oh, regarde.
Oh, que c'est beau.
C'est beaucoup d'émotions, ça.
Un petit lotus de couleur.
Eh bien, écoute, je le prends avec beaucoup de bienveillance.
Les amis, continuez bien votre chemin.
Le nettoie l'émerveille les patients, les familles, mais aussi les soignants, parfois stressés. En début d'après-midi, notre lutin décide d'aller à la salle de réunion où le personnel se rassemble. Après avoir dessiné au rouge à lèvres deux cœurs sur les vitres, il entre pour les emmener en voyage.
Imaginez-vous dans ces petits sentiers qui montent. Tu sais, ces petits sentiers qui montent dans la forêt. La forêt que tu veux, celle que tu aimes. Où les feuilles parsèment le sol, ça peut être l'hiver. Où le gel craque les branches. Où la blancheur est partout. Ça peut être le printemps. Où les bourgeons éclatent. Où le soleil qui naît. Ça peut être l'été.
On n'est pas juste animateur, voilà. Du coup, d'emmener la légèreté auprès des soignants, de prendre soin d'eux. Des fois, on voit une aide-soignante ou une infirmière ou un médecin qui est fatigué, qui a un plein les pattes, et on le prend à part, on lui fait une petite séance de relaxation. En fait, c'est important parce que ça permet aux gens de souffler et puis aussi de pouvoir s'approprier ce genre de technique et pouvoir le reproduire eux-mêmes quand ils sentent que ça va pas, même quand je suis pas là. Et je fais la même chose avec les gens qui sont malades. Le but, c'est d'arriver à ce que les gens arrivent à reproduire ce qu'on a fait ensemble, même quand je ne suis pas là. C'est pour ça, souvent, que je laisse un petit objet, une plume de légèreté ou autre chose. Parce qu'en fait, ça leur permet, en voyant l'objet, de se dire « Ah oui, on avait fait ça, du coup, on peut le reproduire. Ouais. » Et ça marche.
Du côté des soignants, la présence de ce personnage est bien appréciée. Christelle, infirmière.
Il intervient comme ça auprès des soignants aussi, sur des petits moments dans la journée. Du coup, ça nous permet vraiment de nous évader sur un temps très court et du même coup de recharger un petit peu les batteries et de se sentir ressourcé de l'intérieur pour pouvoir continuer à traverser ce qu'on traverse.
Stéphane Follacher, docteur au service de soins palliatifs.
Sa présence réconforte non seulement les patients et les familles, mais permettent aussi un apaisement dans l'équipe. Mais lui apporte en plus quelque chose de poétique et de à la fois décalé et très complémentaire. Et c'est une richesse de plus, quoi.
Sandrine est infirmière.
Vous êtes déjà passée dans une chambre avant et après son passage à ce passeur de rêve. Est-ce qu'il y avait eu une différence dans...
Ouais, déjà parfois un grand sourire, comme un rêve qu'ils auraient eu et qui était magnifique. Parfois, il y a des patients, on a du mal à rentrer en contact et on les découvre autrement grâce à son passage. Et voilà, il se révèle.
Une fois sa tournée terminée, Emmanuel retrouve son identité après s'être changé, la tête remplie des échanges qu'il a eus cet après-midi.
Je me sens en même temps fatigué, physiquement, bien sûr, mais en même temps plein d'énergie, d'énergie de cette rencontre avec les gens. Alors c'est sûr que je pourrais pas rempiler 2 heures derrière la même chose, c'est sûr. Mais ouais, il y a une véritable énergie. Et alors moi, j'ai trouvé pour déposer ça, parce que c'est important aussi de parler de ça, de comment on dépose. Mais même pour les soignants, comment on dépose? Comment quand on quitte une chambre, on part pas avec les valises de souffrance ou de la personne? Et comment on dépose ça? Et moi, j'écris beaucoup. Alors c'est mon lutin qui écrit. C'est assez féerique, mais j'écris beaucoup les belles rencontres. Et puis, on est souvent en lien entre étoiles pour discuter, débriefer des difficultés qu'on a eues ou des bons moments, voilà. Et puis, j'ai aussi une amie qui est psychologue, que je vois de temps en temps, voilà, pour aussi en parler. Voilà.
Nous avons recontacté Emmanuel Clerc pour savoir comment son activité se déroule en cette période de confinement.
Pourquoi les hôpitaux ont voulu que vous reveniez dès septembre ?
Alors, les hôpitaux ont souhaité que je revienne parce que de nouveau, les visites sont interdites, ou alors très très limitées, genre une ou deux fois par semaine en soins palliatifs. Et du coup, les gens sont quand même dans une extrême solitude. Et donc, moi, j'interviens pour les faire un peu s'évader de leur chambre d'hôpital de façon virtuelle, prendre soin d'eux, quoi.
Et quelle est l'ambiance dans les hôpitaux ?
Alors l'ambiance est assez tendue parce que de nouveau il y a eu des cas de Covid le mois dernier là. En septembre ça allait mieux et puis de nouveau il y a eu des cas et en unité de soins palliatifs à Bourg maintenant il y a la moitié de l'unité qui est une unité Covid. Donc les soignants ils ont dû prendre des nouveaux protocoles, et puis il y a une certaine appréhension quand même, enfin, c'est compliqué, quoi.
Comment vous vous êtes adapté donc à cette nouvelle ambiance et au fait que dans ce service de soins palliatifs, il y ait la moitié, ce soit des patients Covid? Est-ce que vous vous occupez aussi de tout le monde ou...
Alors moi, je ne vais pas voir les patients Covid parce que les soignants sont
déjà habillé en cosmonaute pour y aller. Et donc, moi, avec mon costume et tout, si j'étais habillé comme ça, ça perdrait tout son sens, quoi. Et en plus, on peut pas toucher les gens, enfin, on peut pas s'approcher, enfin, c'est compliqué au niveau de la relation. Donc moi, j'interviens que avec les gens qui sont en soins palliatifs, mais, j'allais dire classiques. Et j'ai un masque, j'ai acheté des masques qui sont pour les malentendants. Et c'est des masques qui sont transparents, qui sont homologués et qui sont transparents et du coup qui laissent vraiment une vraie relation avec les gens, quoi.
Et vous voyez directement l'importance de votre présence pendant cette période avec ces patients ?
Oui, enfin moi je la vois et le service aussi était bien content que, enfin les différents services étaient bien contents que je revienne. Et il y a une vraie complicité pour qu'on démarre ça. Et ouais, c'est chouette ça, parce que on sent que les gens aussi ils sont tendus, tout le monde est tendu, les gens du service hospitalier. Voilà, ça met une pression d'avoir tous ces protocoles à mettre en place, à faire attention, de pas avoir de cas de Covid. Et puis les gens qui sont malades aussi, on sent qu'ils sont déjà énormément pris au niveau mental par leur maladie, mais le fait de pas voir les gens qu'ils aiment, de pas pouvoir voir simplement des gens autres que des soignants, c'est très compliqué pour eux. Ça rajoute à la maladie.
On peut pas vous suivre en ce moment, mais est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un moment avec un patient qui vous a marqué ces derniers mois pendant cette période?
Il y en a eu beaucoup, mais j'ai passé un très bon moment avec un monsieur, je crois, qui était algérien et avec qui on a beaucoup parlé de son pays. J'ai essayé de mettre des odeurs de fleurs d'oranger. On a parlé de... J'ai joué du tambour de mer pour essayer de lui faire traverser l'océan pour retourner dans son pays. Et puis, à un moment, il y a le médecin qui est rentré dans la chambre. Et donc, quand il m'a vu, il a voulu repartir. Moi, je lui ai dit de venir. Donc, on était tous les trois. Et ce monsieur a dit un truc très, 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 très chouette qui était très émouvant. Il a dit au médecin, ben, vous êtes docteur du corps et c'est très important. Et le lutin, il est docteur de l'âme. Et vous êtes très complémentaires. Et j'ai trouvé que c'était... ça résume bien ce qu'on fait à l'hôpital.
Emmanuel Clerc va aussi à la maison de retraite des Encolis à Bourg. Une demande qu'il a acceptée car les personnes âgées ont peu de visites. Son activité est très demandée, mais il ne peut satisfaire tous les établissements faute de temps.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et belle semaine sur nos ondes. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même horaire, pour le dernier numéro de l'année 2020. On prendra des nouvelles du théâtre de Bourg-en-Bresse, des cinémas burgiens et du monastère royal de Broue.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.